Bienvenue sur l'espace du cœur, le podcast qui invite à suivre ses élans du cœur pour faire éclore un monde meilleur. Je suis Laetitia et je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'ai le plaisir de recevoir Luciana Calvetti, astrologue et créatrice de la newsletter et du compte Instagram Bulletin des étoiles. Avec Luciana, on a notamment parlé d'astrologie, bien évidemment, mais aussi de son parcours avant de devenir astrologue et de sa vision du nouveau monde qui se crée avant tout en chacun de nous. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle écoute sur l'espace du cœur. Coucou Luciana, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui.
Merci pour ton invitation, je suis heureuse d'être ici aussi.
Ah, trop bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui est Luciana et nous expliquer un peu ton activité actuelle?
Oui, alors moi, je m'appelle Luciana Calvetti, je suis astrologue. J'accompagne les femmes à reconnecter avec leur sagesse et leur puissance intérieure à travers, du coup, mon outil principal qui est l'astrologie, une astrologie humaniste, évolutive et qui est très centrée sur les processus émotionnels et psychologiques.
Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'astrologie? Parce que c'est vrai que moi, je m'y intéresse depuis quelques mois. Mais avant ça, je pensais que c'était, tu sais, l'astrologie qu'on trouvait dans les horoscopes. Et voilà, est-ce que tu pourrais nous donner un peu, toi, ta définition?
Oui, alors c'est vrai que l'astrologie n'a pas un super bon accueil, surtout dans des pays très cartésiens et rationnels comme la France. Mais ceci étant dit, ça n'a pas toujours été le cas parce que l'astrologie a eu, pendant toute son histoire, autant de périodes d'essor, on va dire, de cette discipline. Par exemple, même en France, l'astrologie était à une époque à l'université et les princes et les rois avaient souvent besoin ou faisaient appel à des astrologues. Et de la même manière, on a eu aussi une astrologie, voilà, qui a eu des périodes sombres, beaucoup plus obscurantistes, où effectivement, on liait plus la figure d'un astrologue à un voyant, une diseur de bonne aventure, ou je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sens qu'il y a un nouvel essor de l'astrologie qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus conscient avec le même essor de la spiritualité qu'on peut voir en Occident. Pour résumer un peu ce qu'est l'astrologie, moi, j'aime bien dire, voilà, c'est une discipline qui s'appuie sur une hypothèse de base qui, bien évidemment, n'est pas aujourd'hui prouvée et confirmée puisque la science, à ce moment, ne peut pas tout prouver et confirmer et notamment tout ce qui est du domaine des énergies. Je crois que c'est encore pas forcément le moment, on n'est peut-être pas encore à ce stade-là. Et cette hypothèse, c'est que, voilà, les planètes, les astres ont un champ électromagnétique qui nous arrive jusqu'à la Terre et que ces champs électromagnétiques est porteur de sens, qu'il y a un sens dans ces énergies-là. Qu'il y a des énergies qui vont plus, voilà, nous parler de responsabilité ou d'ouverture ou de liberté et que ces énergies-là, elles vont venir s'imprégner sur les êtres humains, notamment au moment de leur naissance, comme un code génétique, comme un ADN énergétique, on va dire, qui, d'une certaine manière, nous détermine. Mais de la même manière, j'ai envie de dire que le pays dans lequel on est, la langue que l'on parle, le milieu social dans lequel on grandit nous détermine aussi pour notre vie. Bah, ces champs énergétiques ou ce thème astral, en fait, et ces énergies du moment de notre naissance pourraient nous déterminer d'une manière énergétique aussi, comme d'autres facteurs. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique et ce n'est pas une déterminante complètement destinée où nous n'avons pas notre mot à dire. Il y aurait comme une sorte d'ADN énergétique qui vient se coller chez l'être humain au moment de sa naissance et qui permettrait de voir aussi les énergies que cette personne porte, le champ vibrationnel, on va dire. Et pour moi, l'astrologie, c'est aujourd'hui surtout vraiment où l'astrologie a abandonné un peu cette volonté de vouloir prédire l'avenir ou de vouloir savoir ou faire genre comme si les astrologues savaient ce qui allait se passer. On est beaucoup plus dans une astrologie qui est beaucoup plus évolutive et humaniste où en fait l'astrologie on l'utilise finalement comme un outil de connaissance de soi qui va nous permettre en fait de nous poser des bonnes questions. Plutôt que de chercher les réponses de nos questionnements humains dans l'astrologie, on va plutôt aller chercher des questions qui vont nous amener, voilà, des nouvelles réponses, des nouvelles manières de voir les choses. Donc, quand je dis astrologie évolutive, c'est un peu cette idée de se dire, OK, on a des énergies qui sont là, qui existent à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Comment ces énergies-là nous aident à évoluer dans notre chemin de conscience, d'élévation de la conscience? Quelles sont les grandes leçons qu'elles nous apportent? Comment en profiter au maximum pour développer son potentiel? Et en même temps, comprendre qu'est-ce que ça vient nous apprendre, en fait, quand il y a des difficultés ou des schémas compliqués. Donc, voilà. Pour moi, l'astrologie, c'est comme une meilleure amie, une thérapeute, une coach de vie. En fait, c'est un outil qui permet, voilà, de se poser les bonnes questions, qui nous accompagne aussi dans nos processus émotionnels, qui nous permet aussi de voir à quel moment, pourquoi il y a de la tension, de la contraction ou de l'ouverture ou certaines envies qui peuvent apparaître à un moment là. Et qu'est-ce que cela veut dire un peu de l'ambiance énergétique et de nous, de notre vie. C'est un peu une astrologie un peu plus moderne, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, c'est comme ça que les personnes qui me suivent la décrivent. Et pour ça, je pense que ça leur parle.
Souvent, on voit l'astrologie surtout par rapport à notre signe solaire, alors que finalement, c'est tellement plus large, que notre thème astral, il est tellement plus large que juste ce signe solaire.
Absolument. Oui, et d'ailleurs... On est très habitué aussi à l'avoir d'un côté, ah bon, bah, si moi, mon signe solaire, c'est le lion, il faudrait que je sois comme ça. Et si moi, je me sens pas comme c'est décrit dans l'horoscope ou dans le livre, alors, voilà, l'astrologie ne marche pas. Sauf que justement, quand on voit l'astrologie comme quelque chose de différent, comme une carte d'évolution en plus, parce que le thème astral, pour moi, c'est ça, c'est une carte qui contient tellement d'informations sur notre passé, sur notre futur, sur qu'est-ce qu'elle en est aujourd'hui, sur nos potentialités, en fait, qu'on se rend compte qu'effectivement, le signe solaire, d'une, c'est pas tout, c'est pas aussi en fonction du cycle de notre vie. Ça va pas être peut-être le signe solaire qui va s'exprimer le plus, mais par contre, voilà, par exemple, le signe lunaire, c'est très très important aussi. Oh, il y a des personnes aussi qui peuvent ne pas vivre leur signe solaire. Et ça veut dire quelque chose. Et en astrologie, on a justement des indicateurs sur un thème astral qui nous permettent de voir aussi quand un signe solaire est bloqué, quand il n'est pas exprimé. Donc en fait, il n'y a rien de plus faux, entre guillemets, que de lire une description de signe solaire et dire « Ah non, mais moi, je ne correspond pas du tout à ça, je ne m'identifie pas du tout avec ça. » Et même si c'était le cas, en fait, l'important, c'est de savoir pourquoi. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie qui nous permet de grandir et qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie qui nous permettrait de briller plus ou de nous sentir alignés avec notre essence, avec qui on est, que cela soit parce qu'on vibre les signes solaires ou peut-être pas, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir prendre plus d'importance. Mais voilà, pas comme quelque chose qui doit nous donner la vérité ou nous dire la réponse, mais plutôt quelque chose qui nous permet de travailler sur nous, évoluer, grandir, se poser des questions.
J'adore parce que quand t'en parles, je sens vraiment la passion dans ta voix. Et c'est trop beau. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours que tu as pu avoir avant cette rencontre?
Oui, à la base, j'ai un parcours assez classique dans le sens où j'ai fait des études universitaires d'histoire et ensuite j'ai étudié les relations internationales à Sciences Po. Aussi, j'ai travaillé à Paris dans un cabinet de conseil. Ensuite, j'ai accompagné des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai envie de dire un parcours plus classique d'une certaine manière, même si voilà, il n'existe pas un parcours classique, mais en tout cas pas dans ce domaine-là. Et ce qui m'est arrivé, je pense, à un moment de ma vie, un peu avant mes 30 ans, c'est de me rendre compte aussi d'arriver, voilà, à un moment où on se pose des questions et où j'ai vu effectivement que j'étais arrivée un peu là où j'avais envie d'arriver, c'est-à-dire avoir un travail qui me passionnait, parce qu'en plus, ce travail me plaisait beaucoup, mon dernier travail dans l'économie sociale et solidaire, avec une super belle équipe, avec voilà, le salaire qui me convenait. J'avais une belle relation de couple, j'avais mon bel appart à Paris, un peu ce que je voulais. Et en même temps, je sentais quand même comme un vide à l'intérieur de moi, comme quelque chose qui n'était pas nourri. Et en fait, c'est ça, l'astrologie est partie à la base, je pense, d'une recherche intérieure, d'essayer de comprendre c'est quoi ce vide, qu'est-ce qui se passe, quel est ce vide en moi et pourquoi il y a une partie qui se sent pas, en fait, épanouie. C'est beaucoup venu avec le fait de me rendre compte aussi que j'avais, d'une certaine manière, beaucoup laissé de côté mon énergie féminine et que j'avais été dans ce côté masculin très carriériste, très linéaire, qui me disait, voilà, la vie, c'est ça, c'est faire des études, puis avoir ce travail, puis monter de salaire, puis se marier, puis faire ce genre de choses, comme si ma vie, elle était déjà dessinée à l'avance, mais il y avait un manque, en fait, un manqué de... Moi, j'aime bien toutes les métaphores qu'on fait sur l'énergie féminine et l'humidité. Il manquait l'eau, il manquait la terre fertile. Il y a aussi une expression qu'on utilise, les racines boueuses, vraiment ce côté un peu très... ouais, très fertile, en fait, de l'énergie féminine, très créatif aussi. Et donc, c'est venu par là, c'est vraiment venu par d'abord une reconnexion à mon corps, bien évidemment, parce que j'étais énormément dans la tête avec toutes ces études-là et parce que, voilà, mon mental et mon cerveau, ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément servi dans la vie. Et donc, j'avais comme aussi un respect supérieur par mon intelligence, mon mental. Et voilà, j'ai commencé à recontacter plus, à me connecter à mon corps. J'ai commencé le yoga, la méditation, à trouver des espaces en moi où je pouvais sentir justement ce plein. Parce qu'il y avait un vide. Et du coup, j'ai compris qu'en ressentant plus à l'intérieur de mon corps, je sentais plus ce plein de tout, de gratitude, d'amour, de connexion à la nature, voilà, de me savoir en vie, je sais pas. Quelque chose qui n'était pas avant dans ma vie parce que c'était tout le temps, il manque ça, il manque ça, il faut continuer à avancer, il faut aller encore plus loin, il faut toujours s'améliorer. Et il y avait beaucoup, je pense, il y avait peu d'acceptation finalement de là où j'étais, en fait, du moment présent finalement. Et donc, à travers ça, je suis arrivée, je sais pas comment, je suis tombée sur une astrologue qui décryptait les lunes. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, la lune, c'est un astre qui nous fascine, particulièrement les femmes, mais je pense tout le monde, les enfants, les hommes, c'est tellement mystérieux, c'est tellement fascinant, c'est tellement, on a tous une relation particulière avec la lune. Et à ce moment-là, la lune m'a connectée à ma féminité, m'a connectée aussi à cette partie de mystère, cette partie de magie de la vie. Et j'ai senti aussi dans les décryptages des lunes qui faisait cet astrologue que ça parlait de moi à l'intérieur de moi, en fait, et qu'il y avait des énergies à l'intérieur de moi et qu'il y avait un monde invisible ou énergétique où il s'est passé des choses. Alors qu'avant, j'avais l'impression que tout était le monde matériel. Et bah forcément, c'était très aride, c'était très sec parce que le monde matériel, bah, voilà, c'est que, entre guillemets, les objectifs, les ressources, les choses comme ça. Et finalement, voilà, cette énergie féminine qui me manquait se trouvait aussi, je pense, dans l'invisible, dans l'énergie, dans la magie. Et bon, très vite après, j'ai décidé de me former vraiment comme une initiation, en fait, comme un parcours de connaissance de moi, de développement personnel, où je me suis dit, voilà, je vais plonger parce que l'astrologie m'apporte aussi, au-delà de toute cette connaissance de soi, m'apporte aussi ce langage symbolique et cette connexion complètement poétique au ciel. Parce que voilà, à chaque fois que l'être humain lève ses yeux pour voir le ciel, en fait, il y a quelque chose qui se fait, en fait. Il y a une connexion, on se rend compte de notre petitesse et en même temps de notre immensité, de qu'est-ce qu'il y a dans le cosmos. Je pense que voilà, ça nous fascine tellement que juste le fait de commencer à l'amener dans la vie, en fait, ça, moi, ça m'a permis de me connecter vraiment à quelque chose de bien plus grand que moi. Ça a été aussi mon parcours spirituel aussi, je pense, à travers la découverte de l'astrologie. Et dès que je suis tombée dedans, dès que j'ai commencé les premiers cours, j'ai senti que ça allait être une passion. C'est sûr.
Donc au début, finalement, c'était assez personnel. Ça t'a beaucoup apporté sur un plan personnel. Et ensuite, t'as voulu transmettre ça et en faire ton activité.
Oui, absolument. Ça s'est pas fait tout seul parce que j'ai énormément travaillé et agi dans ce sens-là. Mais c'est vrai que au départ, voilà, c'est l'astrologie, ça m'est venu vraiment comme cette passion où souvent on se pose des questions. Souvent dans les coachings, il y a cette question qui nous dit, bah, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout l'argent du monde, vous avez toute la sécurité, qu'est-ce que vous continuerez à faire? Bah, pour moi, l'astrologie, c'était cet ordre-là. Moi, quoi qu'il en soit, même si j'étais milliardaire ou quoi, je continuerais toujours à faire l'astrologie parce que ça me fascine. Du coup, cette énergie-là, en tout cas, cette passion-là, m'a amenée à me dire, OK, j'ai envie de continuer à progresser, d'aller plus loin, et j'ai commencé à faire des consultations individuelles en étant supervisée par mon professeur d'astrologie qui m'a dit, bah voilà, c'est quelque chose qui t'appelle, vas-y, avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de rigueur aussi et d'humilité dans ce que tu peux proposer parce que t'es encore en formation, mais commence à le faire, je te donnerai les clés sur la posture d'accompagnant et compagnie. Et donc du coup, je me suis lancée comme ça, et puis j'ai eu envie aussi de rassembler un peu des gens, et j'ai pris un peu une soixantaine de personnes de mes contacts que je savais plutôt ouverts et sensibles à ces sujets, et je leur ai expliqué, j'ai dit, voilà, je suis en train d'approfondir l'astrologie. Je vais commencer à interpréter l'énergie des nouvelles lunes, des pleines lunes. Du coup, je vous propose de vous l'envoyer. Et puis, si ça résonne avec vous, vous me répondez. Dites-moi s'il y a des situations de votre vie qui peuvent donner l'exemple justement de ce que je dis. Est-ce que ça vous aide et compagnie? Et en fait, ça a été très, je sais pas, très, d'un coup, en fait, les gens se sont vraiment pris au jeu, ils m'ont envoyé beaucoup de réponses, il y avait beaucoup de choses qui résonnaient. Mes amis ont commencé à partager ça à leurs amis, à leur cercle. Et du coup, la newsletter a grandi en passant, voilà, des 60 personnes à quelques centaines, et aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes qui sont là et qui m'ont toujours fait ce retour du fait, voilà, comme moi, je l'avais senti quand moi, je m'étais intéressée à l'énergie de la Lune, de voir comment ce décryptage peut nous accompagner, nous aider à nous poser des bonnes questions, nous aider à comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que parfois, parce qu'il se passe, c'est un mélange, en fait, d'émotions, de sentiments, de lourdeur, de contractions, de tensions, ou au contraire, d'ouverture, mais on comprend pas vraiment ce qu'il y a. L'astrologie permet de mettre des mots. Et moi, c'est super important de mettre des mots sur les choses. C'est quelque chose qui, voilà, fait partie, je pense, de mes besoins principaux et la compréhension. Et donc, voilà, ça a été quelque chose d'utile, et c'est comme ça que le bulletin des étoiles étoile est arrivée, et toujours pour moi avec un penchant toujours sur l'énergie féminine en fait, parce qu'effectivement l'astrologie pour moi ça m'a permis de me connecter à mon énergie féminine, l'étude de mon thème astral en comprenant plus ma lune, ma Vénus, m'ont permis aussi d'aller voir ce côté-là, et je me suis rendu compte comment ça, non seulement l'astrologie, mais ce que je comprenais grâce à l'astrologie de l'énergie féminine et de l'équilibre de ces deux énergies en moi, m'ont énormément apporté. Donc c'est comme ça, et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'accompagner les femmes et de vraiment tourner cette astrologie vers ce côté féminin, comment on peut lui donner plus de place, de sagesse, de puissance aussi dans la vie de chaque femme, parce que c'est, je pense que c'est une guérison pour tout le monde de faire ça.
Et ça s'est passé comment en fait? T'as fini ta formation et est-ce que tu travaillais toujours dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ou ça quand t'as commencé la formation tu as arrêté?
Non, je travaillais encore dans l'économie sociale et solidaire. Il y a eu une transition où voilà, j'ai commencé ma formation, tout ça, et puis comme ça faisait partie en fait de mon chemin de vie aussi de changer un peu de là où j'étais et de mettre en place des choses dans ma vie qui allaient me permettre de plus m'aligner, j'avais décidé d'arrêter ce travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que bon, c'était un appel depuis super longtemps, l'entrepreneuriat. Et donc, je me suis lancée au départ en tant que coach en marketing pour les entrepreneurs du bien-être. Parce que voilà, j'avais déjà accompagné des entrepreneurs dans mon ancien travail. Et puis, j'avais envie de me rapprocher de cet univers du bien-être, de cet univers, voilà, je sais pas, les profs de yoga, les sophrologues, les thérapeutes. C'est déjà quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai commencé par là avant de passer directement à l'astrologie.
D'accord. Mais par exemple, là, quand tu faisais coach pour les entrepreneurs du bien-être, tu utilisais déjà ce que tu connaissais en astrologie ou pas encore?
Non, pas encore. Parce que effectivement, c'était ça a été aussi un parcours pour moi de le rendre visible et de le rendre, c'est faire vraiment une partie de ma pratique. C'est-à-dire que ça l'était personnellement, ça a toujours été, pour moi l'astrologie c'était toujours hyper utile, mais j'avais encore plein de croyances. Et avec mon parcours de Sciences Po et compagnie, j'avais l'impression que tout le monde allait me sauter à la gorge en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi ton astrologie !» Et en plus, mon copain de l'époque était hyper rationnel, il croyait à rien du tout de bizarre ou quoi, et me regardait avec des grands yeux quand il a vu que je faisais de l'astrologie ou que je commençais à étudier ça. Et donc moi j'étais, voilà, mon environnement à l'époque m'envoyait beaucoup de signaux de, en tout cas moi ça me faisait peur et j'avais l'impression que j'allais être hyper jugée et presque même brûlée sur la place publique pour parler de ce sujet là. Donc au départ, voilà, Manu c'était très confidentiel parce que c'était quelques amis que je savais voilà sensibles à ça, et en même temps je faisais le marketing pour les professionnels du bien-être. J'étais dans ce côté, non, entrepreneur, on va parler business, on va parler marketing, je vais accompagner les entrepreneurs avec quand même un côté féminin, mais quand même, on va aller atteindre les objectifs. Donc, ouais, ça a toujours été un petit peu mon... Bon, c'est deux énergies qui sont importantes en moi, mais cette énergie masculine d'atteindre les objectifs, d'agir, d'être dans l'action, c'est une énergie qui est très forte en moi, et c'est pour ça que le féminin est si important pour venir l'équilibrer. Bon, au départ, j'accompagnais pas du tout avec l'astrologie, mais forcément, quand on accompagne des gens, même sur leur business, il y a des thèmes personnels qui sortent, des choses. Donc très vite, en fait, avec mes clientes, moi, je leur disais, écoute, c'est peut-être pas ce qui est, toi te parle ou quoi, mais moi, l'astrologie, ça amène. Donc, est-ce que tu voudrais pas qu'on aille voir ton thème quand même pour voir si les blocages? Et en fait, elles étaient toutes super contentes. Au contraire, elles adoraient ça. Et donc, oui, je n'en parlais pas publiquement, mais je le faisais avec mes clientes depuis le début, de regarder leur thème et de relier ça à leur parcours d'entrepreneuriat aussi.
Mais c'est intéressant parce que finalement, ça s'est fait petit à petit. T'as commencé d'abord à vouloir te mettre à ton compte en tant que coach, de prendre confiance et d'aller vers l'astrologie.
Oui, je pense que c'est toujours une transition. Et en fait, là où j'ai l'impression que c'est hyper important, c'est de très vite se réaligner. C'est-à-dire qu'on peut toujours être en transition, mais on peut aussi rester bloqué. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'osais pas, et c'est normal parce que je venais de me former, j'avais pas énormément de pratiques, je n'osais pas me lancer comme astrologue parce qu'en plus, je ne savais même pas si à terme, ce métier allait me plaire comme il me plaisait. J'avais toujours ce doute de dire oui, mais peut-être parce que c'est encore quelque chose de nouveau pour moi, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer toute la vie. Donc, on a toujours des peurs de pas être sûr. Donc ça, c'est normal aussi. Mais j'ai commencé quand même à faire cette transition. Et en même temps, elle s'est faite très vite parce que très vite, j'ai aussi pris des décisions. Tu vois, c'est-à-dire que, OK, je sais que je fais ça, le marketing, parce que c'est ce qui est aujourd'hui vivre avec moi, c'est là où je me sens capable, c'est là où je suis bien, et que l'astrologie, je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si ça va me permettre d'en vivre, je sais pas ce que les gens vont me dire, compagnie. Mais très vite, quand j'ai vu que les gens, ça les intéressait, que moi, ça me passionnait, bah, très vite, j'ai commencé à changer. Donc, j'ai commencé à mettre de l'astrologie dans mon business, et puis très vite, à un moment, j'ai fait, non, mais j'arrête le marketing et je vais vers l'astrologie parce que c'est là où mon cœur va. Et là, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées au stade avant, qui reste dans les croyances de non, mais ça va peut-être pas marcher, mais peut-être que les gens vont pas venir, mais peut-être que ça sera pas assez pour vivre. Et en fait, on le saura jamais. Il faut passer à l'action pour le deviner, entre guillemets. Mais ça sert à rien de rester, entre guillemets, dans une activité sûre. Et il y a beaucoup de personnes qui restent, non, mais ça c'est plus sûr. Je sais que ça, ça marche. Bien sûr, le coaching business, bien sûr que ça marche. Moi, la première année de mon coaching business, je pouvais déjà en vivre. Mais c'est ça, justement, de se dire, oui, mais c'est pas par là que mon cœur est en train de me demander d'y aller. Donc, est-ce que je prends la décision tout de suite et je vire, même s'il y a des étapes, parce que bien sûr, on va pas se lancer comme ça sans réfléchir à rien. Il y a des étapes. On peut mettre en place quelque chose de logique et de réfléchi, mais ne pas traîner, en fait, ne pas rester trop longtemps dans les peurs, là où on sait que notre cœur n'y est plus, en fait, alors qu'on sent un appel très grand.
Ouais, non, mais c'est vrai que dès qu'il y a cet appel du cœur, ça passe par le cœur, mais d'un seul coup, t'as la tête qui vient mettre sa couche, tu sais, le mental qui débarque et qui est là en mode, non, mais ça, tu peux pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça.
C'est toujours se rappeler que le mental, une partie de notre mental, de notre cerveau, va toujours voir ce qui est dangereux, va toujours voir là où il n'y a pas, où il y a du danger, où, et même si c'est pas un vrai danger, il va croire que c'est un danger énorme, il va projeter des peurs et tout ça. Donc effectivement, il y a ce côté, bon voilà, le mental est comme ça. Le cœur, il sait, il sait toujours la vérité. Le cœur, il sait vers quoi il est appelé. Et c'est juste, effectivement, de ne pas, entre guillemets, d'une certaine manière, de ne pas croire à ce que le mental nous dit. J'ai fait toujours faire cet exercice un peu à mes clientes et dire, OK, est-ce qu'on a des preuves que si tu te lances ou si tu fais telle chose, cela ne va pas marcher? Et me dire, bah, il y a cette preuve là. OK. Est-ce qu'on a aussi des preuves que ça peut marcher? Ah oui, parce que pour ma chine, ça a marché. Pour la, OK. Les deux sont possibles. Alors, qu'est-ce que tu choisis de croire? Est-ce que tu choisis de croire que ça va pas marcher ou est-ce que tu choisis de croire que ça va marcher? Donc, à la fin, c'est une décision, en fait, qu'on prend. Et quand on arrive à prendre de la distance par rapport à notre mental et de comprendre sans juger, bien évidemment, sans nous punir parce que notre mental est là et il sera toujours là, en fait, à avoir peur et il sera toujours un peu comme ça. Mais c'est OK, en fait, il essaye de nous protéger, donc on peut le rassurer et dire t'inquiète pas, je vais pas mourir, je vais pas manquer, laisse-moi aller voir ce que mon cœur me dit, laisse-moi aller essayer.
C'est trop inspirant. J'ai écouté un interview de toi, le conseil des trois, et tu disais quelque chose de super intéressant dedans. Tu disais que l'énergie du Verseau, elle a plein d'idéaux, sauf qu'elle a du mal à incarner les choses dans la matière. Est-ce que t'aurais des conseils pour vraiment passer, voilà, de la tête à l'action et d'incarner pleinement ses valeurs dans notre quotidien?
C'est super intéressant, merci de citer cette vidéo qu'on a fait avec mes deux amis astrologues, parce qu'effectivement, on est dans une période où l'énergie Verseau est importante. Elle va l'être en 2021, 2022, 2023. On a Saturne, justement, qui est le, on va dire, le roi de la matière, le roi de la matérialisation, qui va transiter par le Verseau. Et le Verseau, c'est, voilà, ce que tu disais, les idéaux. Donc, au Saturne, on nous demande de venir incarner dans la matière, de venir poser des actes pour nos idéaux. C'est-à-dire que essayer de sortir, par exemple, de, je sais pas, de la figure, par exemple, d'une manière très archétypale, l'écolo, une personne qui est super écologique, qui a beaucoup d'idéaux, c'est dans la tête, il signe toutes les pétitions, il est contre tout et compagnie, mais après, quand il va manger ou préparer son assiette, il va pas forcément prendre soin de son corps. Tu vois, c'est vraiment cette cohérence entre ce à quoi on aspire et ce que l'on fait tous les jours. Et c'est hyper intéressant, voilà, que ça soit aussi ton idée avec le podcast, parce que je trouve que c'est très, très aligné, très nécessaire aussi à cette période. Après, pour incarner, pour moi, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, la seule chose qui nous empêche à chaque fois d'aller vers cette incarnation, c'est la peur. Ma phrase qui m'a accompagnée pendant mes premières années d'entrepreneuriat, c'était « il n'y a que l'action qui soigne la peur ». La peur, elle sera toujours là. On peut pas arrêter d'avoir peur, c'est normal et c'est OK et tout va bien avec ça. C'est juste que on peut décider aussi d'être courageux. En fait, on peut pas être courageux si on n'a pas peur. C'est parce qu'on a peur qu'on devient courageux et qu'on passe à l'acte. Pour moi, c'est juste de se rappeler qu'il peut rien se passer, en fait, de grave. La pire chose qui puisse se passer, et c'est pour ça qu'on fuit autant les élans de notre cœur, c'est d'être déçu. Et ça, et c'est normal, c'est à chaque fois qu'on a un gros élan de notre cœur, qu'on a une envie profonde, qu'on a un idéal qui nous appelle, c'est là où on a le plus peur Parce que le fait que ça ne devienne pas réel ou qu'on n'y arrive pas, ça peut nous plonger dans la pire frustration, dans la pire déception du monde. Et donc, c'est là où, pour moi, du moment où on sait que le pire qui puisse se passer, c'est une émotion négative, des frustrations négatives, entre guillemets, mais des frustrations, des déceptions, de tristesse. Bah là, on se reconnecte aussi au fait que, oui, mais on est capable de gérer nos émotions, on est capable de ressentir la frustration, on est capable de ressentir la déception. Ce n'est pas grave. Et une fois qu'on l'aura ressenti, comme toutes les émotions, ça passe à travers nous et on peut se remettre en action. Donc pour moi, c'est vraiment de prendre conscience qu'on aura peur là où notre cœur est le plus engagé. On aura peur d'y aller, mais que rien de grave ne peut se passer. On peut passer à l'action, on peut mettre en place ces choses, on peut suivre nos intuitions, nos élans du cœur. Il n'y a rien en fait, à part de la déception, à part qu'aller toquer à une porte et que la personne nous dise non. C'est pas grave. Ou mettre des posts, écrire quelque chose qui nous plaît et qu'en face, il n'y ait pas de retour. C'est pas grave. Déjà, le fait de l'avoir fait, ça nous nourrit, nous, en fait, avant de nourrir les autres. Et puis, moi, je pense que les choses qui viennent vraiment du cœur, à la fin, elles trouvent toujours leur place dans le monde. Elles trouvent leur audience, elles trouvent leur, quand on parle de business, mais elles trouvent leur lectorat, si c'est un livre. Ça finit toujours par trouver sa place. Mais déjà, il faut que ça sorte, en fait. Si ça sort pas, ça peut pas trouver sa place.
Ouais. Et se dire que finalement, les expériences qu'on va vivre, elles vont forcément nous apprendre des choses. Donc même si c'est pas ce qu'on avait attendu, peut-être qu'on peut en tirer de ça des apprentissages pour ensuite rebondir et continuer. Mais au moins, on l'a vécu et au moins, on peut en tirer des enseignements.
Oui, et puis surtout, plus on reste dans la tête, moins on peut savoir si cet élan est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on voilà, on peut avoir des idées sur à tel projet ou faire telle action ou aller dans tel endroit me rendrait absolument heureux parce que c'est comme ça que nous parle notre mental. Si j'ai ça, toute ma vie serait remplie et tout ça. Mais en vrai, c'est quand on le fait, ah oui, on le fait, ah non, c'est pas exactement ça, c'est peut-être pas ça, ah je l'aurais pas fait comme ci, comme ça. Parfois, on désidéalise aussi des choses, on se rend compte que non, voilà, c'était pas exactement ça, ou alors oui, mais il faut aller plus à droite, plus à gauche. Et ces expériences-là, c'est ça qui rend qu'un idéal soit matérialisé, soit incarné, et c'est ça qui rend notre vie, une vraie vie, en fait, pour moi, tu vois, une vie d'expérience, comme tu dis, on aura fait l'expérience, on saura ce que c'est. On peut pas vouloir aimer ou être en couple sans aussi c'est prendre un petit peu le contre-coup, les blessures de ce que c'est que d'ouvrir son cœur et d'aimer. Mais pourquoi on est venu sur Terre, en fait? Est-ce qu'on est venu ici pour se dire dans la tête, ah, ça serait magnifique un jour d'aimer? Mais à un moment, il faut y aller. Il faut aller sur l'arène et puis se mettre dans le truc et s'ouvrir. Prendre le risque, en fait, d'avoir mal, prendre le risque de se casser la gueule, prendre le risque de voir nos illusions tomber. Il n'y a rien de grave avec ça, en fait. C'est ça qu'on a tendance à faire tout un plat. Oh là là, non, mais si mon idéal se casse la gueule, oh mon Dieu. Mais en fait, c'est pas grave, c'est pas ça rien. On est, et ça, c'est pour ça aussi l'énergie féminine est hyper intéressante, c'est parce que ça nous connecte à la cyclicité. On est cyclique. Tous les ans, la nature, elle devient, entre guillemets, comme si elle était morte. Il y a tout qui s'en va, il n'y a plus rien, et puis tout de nouveau, ça fleurit. Et c'est comme ça, c'est qu'on peut arriver à des stades où il y a plus, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie, et puis on se laisse aller dans cet état-là, et puis le printemps arrive. C'est comme ça, on est un éternel recommencement, il y a une cyclicité qui est là, en fait, et qui, si on la reconnaît et on se connecte à ça, bah, on arrête d'avoir peur de vouloir arriver quelque part, il y a nulle part où arriver, en fait. On avance, et on tourne, on revient, on y va et on revient, bah. Moi, je le vois comme ça, en tout cas.
Totalement. Et c'est cette reconnexion à la nature, elle passe aussi par ça. La nature, elle a tellement à nous apprendre. Et on fait partie de la nature. Tu vois, parfois, on parle de la nature comme si c'était extérieur à nous. Nous aussi, on fait partie de la nature. Et nous aussi, on est des êtres cycliques. Et forcément, le mouvement, ça fait partie de notre vie.
De notre humanité, effectivement.
On parle beaucoup, tu sais, de ce nouveau monde. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait représenter ce nouveau monde?
J'ai toujours été quelqu'un de très idéaliste. Même quand j'étais ado, à vouloir lutter pour un monde meilleur. Pour moi, il y avait ces côtés. Il n'y a pas de sens si on n'est pas en train de vouloir construire un monde meilleur. C'est pour ça, voilà, que j'ai fait mes études dans le développement durable, les relations internationales, que j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire, parce que pour moi, ça allait ramener plus d'humains dans le système économique, plus de sens et des valeurs. Donc, c'est quelque chose que pour moi a toujours été très présent, mais dont aujourd'hui, et d'ailleurs je l'ai beaucoup vu avec ce passage à cette nouvelle année et tout ce qu'on a pu dire sur l'ère du Verseau, l'énergie du Verseau, avec l'effondrement aussi de nos structures de l'année dernière et beaucoup de personnes qui ont parlé, et moi-même, hein, on a beaucoup parlé du nouveau monde, de qu'est-ce que ça pourrait être une nouvelle ère, un nouveau monde. Mais j'ai l'impression qu'on a tous tendance collectivement, y compris moi, à l'idéaliser et à voir le nouveau monde comme, entre guillemets, hein, je te fais une caricature, mais ok, ça sera le moment où on habitera en communauté, on vivra tous ensemble, on élèvera les enfants, par exemple, en communauté, on plantera nos légumes, on vivra comme si on sera connecté à la nature, on apprendra différemment, on n'ira pas à l'école, le travail aurait du sens. Voilà, on peut le dessiner, ce nouveau monde, d'une manière très pratique, enfin concrète, on peut imaginer tout ce qu'on voudrait y mettre. Mais je pense que là où on est aujourd'hui, en fait, ce nouveau monde vu comme ça, si idéalisé, il est très loin. Et ce monde-là, je pense qu'il va se faire à un moment. Mais pour arriver là, effectivement, il faut aussi, et c'est très bien de mettre des initiatives comme l'économie sociale et solidaire, des initiatives qui apportent à cette vision du monde. Mais pour moi, ce nouveau monde, il s'est créé déjà à l'intérieur de nous. Et on est à un stade, disons que ce monde-là, c'est un monde adulte. Et nous, on est encore dans le stade de l'adolescence. C'est-à-dire qu'on est seulement en train de tourner le regard vers l'intérieur pour voir, en fait, quels sont tous les schémas, tous les peurs, tout ce qui est notre ego aussi appris, qui a construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, le nouveau monde commence par déjà prendre la responsabilité du monde qu'il y a aujourd'hui. Et le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est un reflet parfait de qui on est. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, déjà prendre la responsabilité de ce que l'on a créé collectivement, ne pas croire, ah non, moi, c'est le nouveau monde et je veux y aller, tu vois, mais de dire, non, c'est ce monde qui existe aujourd'hui et aussi de voir à quel point je continue à le créer. Moi, je me rends compte, il y a des choses dans lesquelles je suis très confortable et dans lesquelles je n'arrive pas à passer à certains modes de consommation alternatifs, ça me fait peur d'échanger trop d'habitudes, donc j'observe aussi les peurs qui sont à l'intérieur de moi, ces besoins de stabilité, ces besoins de confort, comment ce monde actuel, il me sert aussi, il est utile. Voilà, c'est poser ces questions-là et le ramener toujours vers soi, en fait, et créer le nouveau monde en soi. C'est-à-dire déjà voir le monde qu'on a créé aujourd'hui, qui on est aujourd'hui, et voir, voilà, comment se libérer de ça. C'est pour ça, cette année, je l'ai beaucoup travaillé en astrologie sur la libération intérieure, la libération de la conscience, c'est que pour que ce nouveau monde existe, déjà, il faut que nous, on se libère de nos attachements et nos peurs qui ont créé le monde actuel. Et ça, on est des bébés. On est vraiment au stade où on est seulement en train de le voir.
On en revient toujours à la même chose, ça passe par nous. Et c'est pas facile parce que forcément, ça fait passer par des moments où cette libération, tu sais, parfois on aimerait de se libérer, que ce soit facile et hop, on continue notre chemin. Mais non, on est confronté à ce processus de mort en nous. Et forcément, un processus de mort entraîne un processus de deuil aussi. Donc c'est aussi être doux envers soi et accepter que ce travail n'est pas forcément confortable.
Et qu'il se fera peut-être pas si rapidement, pas si facilement, mais qu'il est possible. Voilà, pour moi, il y a cette notion de responsabilité. D'ailleurs, ça m'amène beaucoup à cette histoire des Saturne en Verseau. C'est de prendre la responsabilité. En fait, tant qu'on ne sera pas nous-mêmes responsables et maîtres de notre propre intériorité, on ne pourra, entre guillemets, rien créer dans le monde qui soit dans une certaine responsabilité. Donc, responsable de nos émotions, responsable de nos pensées, responsable de nos réactions par rapport aux autres. On est encore trop les enfants blessés qui agissent, même si je travaille tous les jours sur l'introspection, la conscience, nanana. Je me vois dans mes comportements, je suis un enfant blessé quand mon chéri me dit ou me dit pas de certaines choses. Donc, moi, je suis dans ce processus de prendre la responsabilité sur tout ça, sur mes émotions, mes réactions, mes comportements, mes choix. Et à partir de là, peut-être que ça sera pour cette vie-là, ou peut-être que ça sera dans une autre incarnation où on pourra le voir concrètement, je sais pas.
Je pense qu'il y a aussi cette notion de joie, de simplicité, de se connecter vraiment aux choses qui nous font profondément du bien. Et plus on est en joie, plus ben, forcément ça se reflétera. Et je pense que le monde a surtout besoin de personnes épanouies. Voilà, t'es beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Je pense que c'est ça le plus important.
Oui, ça me parle absolument. Et c'est vrai quand je dis prendre la responsabilité, tu vois, sur nos émotions, c'est ça aussi. C'est que la responsabilité, c'est aussi se dire que c'est nous le seul responsable de nous donner cet amour, de nous apporter cette douceur, de nous plonger ou de nous cajoler dans cette énergie féminine pour accueillir, pour accepter. C'est à nous de le faire et on est en capacité en plus de le faire. Tu vois, c'est pas comme si c'était quelque chose de super difficile. C'est juste que voilà, ça demande de le choisir. T'imagines si chacun d'entre nous on arrivait à prendre cette responsabilité-là et être plus en paix dans nos relations, dans notre vie en général, naturellement on consommerait moins. Naturellement on suivrait les élans de notre cœur et naturellement on créerait des communautés conscientes. Ça serait naturel. Il y aurait plus rien à faire d'un point de vue macro. Voilà, les gouvernements, les organisations. En tout cas, moi, je sens que voilà, cette collectif, ce nouveau monde, ça passe déjà par créer le nouveau monde dans sa propre vie et à l'intérieur de soi.
Trop, trop bien. Avant de finir, il y avait des petites questions coup de cœur. C'est la minute coup de cœur sur l'espace du cœur. Est-ce que tu voudrais nous partager, par exemple, un livre qui t'a marqué, un livre qui t'inspire?
Oui, alors mon livre, il n'est pas très original, mais je m'en fous. C'est un livre qui est maintenant très connu et qui est cité un petit peu partout. Mais moi, quand je l'ai lu, dans les conditions dans lesquelles je l'ai lu, je pense que ça m'a connecté profondément à mon cœur. Et qui est « Femme qui court avec les loups ». J'étais au Pérou au moment où je l'ai lu. J'étais en train de faire une retraite dans la jungle pendant 3 semaines, coupée du monde extérieur, voilà, à prendre ma douche dans la rivière, à faire, entre guillemets, une vie très, très naturelle. Et je l'ai lu à ce moment-là, cette connexion à la femme sauvage, cette connexion à la nature féminine et à la nature, à la cyclicité, à la beauté. Moi, ça m'a profondément connectée avec mon cœur comme étant, le cœur comme étant presque cette rivière, cette nature, nature fertile de laquelle tout peut pousser. J'avais des images et des visions qui me venaient en lisant ce livre, des papillons, des plantes, des fleurs qui poussaient à partir de mon cœur, et de voir à quel point on est à l'intérieur de nous, on est une source en fait, une source de tout, de créativité, d'amour, de joie, de partage, de tout ce que l'on veut. Et ce livre, pour moi, pourtant je l'avais déjà lu une fois quand je vivais à Paris et j'étais là, bon, je comprends rien, c'est compliqué, ces trucs, ça me dit rien. Alors quand je l'ai lu au Pérou, il y avait vraiment comme une connexion symbolique en plus, parce que ce livre, il porte une énergie, il y a beaucoup de symboles et beaucoup de mots, voilà. Pour moi, ça a été un des livres les plus nourrissants pour mon cœur.
Moi aussi, ce livre sur mon parcours, il a été... Il était vraiment précieux. Et on parle de l'énergie féminine. Ce livre, c'est une pépite. Et c'est magnifique parce qu'il apporte aussi cette dimension poétique grâce aux histoires, aux contes et, ouais. Donc, je valide à 100% ce livre aussi. Ensuite, est-ce qu'il y aurait quelques personnes que t'aimerais nous partager et qui t'inspirent beaucoup et qui représentent, voilà, pour toi, cette idée de suivre les élans de son cœur?
Alors, oui, il y a plusieurs personnes, mais elles vont pas forcément être des personnes très connues. Mais moi, je sais que les personnes autour de moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Je pense que la première personne dans ma vie, c'était toujours ma sœur, qui est plus jeune que moi, et que j'ai trouvée à chaque fois très courageuse. J'ai senti, alors que moi, j'essayais un peu de marcher sur la voie parfaite, à faire tout ce qu'on attend dans la société, les parents. Ma sœur, elle a toujours fait ce qu'elle voulait, je trouvais. Elle a toujours été très fidèle à elle-même, très fidèle à ses élans du cœur. Et les fois où, voilà, on a discuté ensemble et moi, je me disais, mais je comprends pas, pourquoi tu veux pas faire comme tout le monde? Et qu'il m'a dit, mais non, moi, je sens que ma vie, mon élan, c'est ça et je veux le faire. Et ça m'a tellement choquée parfois, ça m'a laissé tellement interrogative que ça a énormément nourri aussi, moi, mes propres élans du cœur. C'est pareil, la personne avec qui je suis aujourd'hui, mon copain, qui m'a aussi transmis cette énergie très forte du cœur, en fait, de sentir la connexion à un espace autre, en fait, qui s'explique pas presque, qui est énergétique et sur lequel il y a pas grand chose à dire finalement, mais il y a tout à ressentir. Donc, bon, voilà. Et j'ai plein de personnes dans mon entourage, des copines entrepreneurs, des personnes que je vois suivre et faire des pas hyper courageux, ma coach, enfin, plein de gens qui sont, voilà, incroyables. Moi, je me nourris beaucoup de ce qu'il y a autour de moi, des personnes qui sont autour de moi. Après, si je devais dire, voilà, une personne un peu plus comme ça, un mentor ou comme ça, une inspiration, je dirais Isa Padovani. Elle en parle souvent dans ses vidéos, de suivre son élan, de contribuer, son élan d'aide. Du coup, elle est très connectée à cette idée d'élan. Et c'est vrai que plein de fois, en l'écoutant, me sentir dire, ah oui, mais moi, il y a plein de, entre guillemets, des blocages, des énervements, des trucs comme ça. C'est pas, en fait, si négatif que ça, parce qu'au fond, je sens que ce qui me motive, c'est cet élan de contribuer à que le monde soit meilleur, cet élan de contribuer à que la vie de la personne en face de moi soit harmonieuse, soit belle. Je trouve qu'elle ramène beaucoup à, en fait, il y a vraiment des parties de nous qui sont vraiment dans un élan de contribution qui sont, voilà, qui est énorme. Et c'est notre côté hyper empathique et notre côté hyper solidaire cœur. Dans les mots qu'il emploie, ça m'a vraiment reconnectée à cette énergie d'élan du cœur, on pourrait dire.
Trop bien. Dernière question, est-ce que tu as un appel du cœur qui est présent en ce moment?
Oh là là, oui, j'ai un appel du cœur. Mon appel du cœur en ce moment, même quand j'en parle, je sens que j'ai la voix qui tremble. Mon appel du cœur en ce moment, c'est de rentrer en France. Après 2 ans et demi où je suis pas rentrée. Et comme je disais tout à l'heure, c'est là où, quand on sent l'élan du cœur tellement fort, c'est là où ça nous fait encore plus peur. Donc, je sens qu'au même temps que j'ai cet élan, il y a plein de peurs qui sortent et qui ressurgissent. Donc, je sens que j'ai besoin d'aller voir aussi qu'est-ce qui se joue là-dedans. Mais voilà, la France, c'est mon élan du cœur. Donc, je pense que bientôt, je rentrerai. Ouais, j'ai toute une histoire, bien évidemment. Ça ne ferait pas la même chose à d'autres personnes. Moi, j'ai toute une histoire avec la France, avec voilà, le fait d'avoir vécu. Parce que moi, je ne l'ai pas dit, mais je suis d'origine argentine. Enfin, je suis argentine et j'ai vécu 19 ans en Argentine avant d'arriver en France. Et la France m'a beaucoup apporté. J'ai construit une deuxième vie là-bas. C'est un peu une autre partie où il y a des racines pour moi, même des racines construites parce qu'elles sont pas originaires. Mais bon, il y a plein de choses qui se jouent dans ce retour.
Ben dis donc, c'est super beau et je comprends que ce soit super fort. Le soleil est en train de descendre, donc je crois que c'est le bon moment pour clôturer. Est-ce que tu aurais peut-être un message qui te tient à cœur, que tu aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent?
Je pense que mon message, déjà, ce serait d'abord de te remercier pour cette initiative parce que je pense que voilà, t'as suivi aussi toi un élan du cœur en créant ce podcast et le seul fait de faire cette interview avec toi, moi ça me connecte déjà à cette énergie de mon cœur et de ce qui vibre en moi. Donc je pense que les personnes en l'écoutant, j'espère que ça sera le cas, elles vont se reconnecter à ça. Je souhaite en fait en tout cas que ton projet grandisse, fleurisse et touche le maximum de personnes pour que tout le monde puisse sentir, avoir ce courage ou avoir cette partie plus forte d'eux-mêmes qui pulsent en fait et qui est ce cœur qui va plus fort que le mental finalement et qui a plus de force et donner plus de place à ça. Je sais pas, je pense que ça ne peut être que payant et que c'est comme ça aussi que le nouveau monde va émerger en se basant sur cette énergie-là du cœur. Donc merci beaucoup.
Je suis juste super touchée et j'ai le cœur qui va exploser d'amour là. Pour te retrouver, ça se passe sur Instagram, c'est ça?
Oui, le plus facile, c'est d'aller sur Instagram, sur mon compte Bulletin des étoiles et s'inscrire à ma newsletter pour recevoir 2 fois par mois les décryptages des nouvelles lunes, pleines lunes et plein d'autres petits cadeaux, propositions que je fais souvent.
Trop chouette. Bon, je mettrai ça de toute façon dans la description. Merci de tout mon cœur, encore une fois. Je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi.
Merci Laetitia, c'était génial. Encore merci pour ton invitation.
De rien. Je te fais des bisous.
Bisous. À bientôt.
Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous aura donné une bonne dose d'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, notamment avec une petite story Insta. Cela m'aide beaucoup. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner et noter le podcast sur Apple Podcasts. Avant de vous laisser, je tenais à vous remercier de tout mon cœur pour votre écoute et je vous invite à suivre la page Instagram Espace du Cœur pour être au courant des prochains épisodes. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur l'Espace du Cœur.